Salut à toi, camarade. Cette émission censurée avec le DAV derrière le micral, à la jactance et le Luca derrière l'hypotard, à la technique, on est en différé à l'antenne de Radio Caraïbes Nancy RCN sur les ondes 90.7 FM et sur la toile www.rcn-radio.org. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, en ce 1016e jour d'occupation hollando-valso-médéfienne, tout comme la semaine dernière, suite directe de la semaine dernière, second épisode, parce que je ne pense pas qu'il y en aura de troisième pour cette année du moins, l'année prochaine, ça c'est sûr, on verra ça, mais en ce qui concerne donc ce soir, c'est le deuxième épisode de Y'a 30 piges, pour clore 2014, qui est déjà fini depuis un petit moment, nous allons donc retourner 30 ans en arrière, en 1984 précisément. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, ça vous est déjà au courant. Si vous avez écouté aussi l'émission de la semaine dernière, vous êtes déjà aussi au courant que ce deuxième épisode fait suite directe donc, enfin ces deux derniers épisodes font suite directe des émissions 190 et 191 de février de l'année dernière. Si ma mémoire est bonne, vous pouvez la trouver sur l'intégrale. Ça, vous le savez déjà. Et en attendant, on démarre en 83, grosso merdo, ça démarre comme ça. Le son est pérave. C'est du vieux de la vieille, hein. 30 piges, 31 même précisément. Vont pas ça. Le son est pérave, hein, mais il y a déjà une sacrée bonne patate dans un des tout premiers enregistrements Vampatien. On va revenir à ça tout de suite. Bienvenue les amis, bienvenue et merci d'être à l'écoute d'émissions censurées d'RCN. Alors le thème de le soir, je voulais déjà un petit peu expliquer avant que le premier morceau ne démarre. Dans tous les cas, si vous avez suivi la semaine dernière l'émission Chapeau, parce que d'une part elle était pas facile à faire, hein, comme je vous l'ai dit, pratiquement, si ce n'est plus, 2 mois de préparation, en comptant aussi évidemment l'épisode qu'on est en train de s'écouter ce soir. Et tout ça pour vous dire que la semaine dernière, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui l'ont fait, du moins, je comprendrai carrément que vous ne l'ayez pas fait pour certains et certaines d'entre vous. Parce que c'est vrai que l'émission, j'espère qu'elle n'était pas trop rébarbative. 4 morceaux seulement en une heure avec tout le reste de blabla. Heureusement que toutes les émissions censurées sont pas comme ça. Alors, je pense que ça va être un petit peu le cas, un peu moins lourdos. Pas d'introduction pour remettre dans le contexte socio-politique et géopolitique de l'année 84, comme on a fait en démarrage d'émissions précédentes. Là, on va directement attaquer dans le vif du sujet, les amis, avec donc Les Vents Passent. Le morceau qu'on vient de s'écouter, alors ça, c'est un petit trésor. Ça date de 83. C'est le premier enregistrement live des Vents Passent qui date donc de 83, comme je vous l'ai dit, à la fête de l'UMA. Ça a été enregistré à la fête de l'humain. Le titre du morceau, c'est Vents Passent. le groupe Les Vents Passent. Et ce truc-là, il a jamais été édité sur 45 tours, maxi, EP, tout le tralalaire. On le retrouve dans les suppléments bonus de la réédition de leur premier album, leur premier véritable album au Vent Passe, qui s'appelle Tutti Frutti, qui est sorti à l'époque en 86 chez Tutti Frutti Records, et donc qui a été réédité avec un bon paquet de bonus dessus en 99 chez ASAP, et le tout distribué par Piace France. Donc tout premier enregistrement live des Vent Passe, sachant que c'est évidemment 83 la formation originale des Vent Passe, on va y venir tout de suite, et la réédition de Tutti Frutti, ça je vous en ai parlé, pas besoin de relire mes pattes de mouche. Alors les Vents Passe, allons-y, on attaque et on va voir où tout ça nous mène en serrant les fesses pour essayer de tout faire rentrer en une heure. Les Vents Passe, alors le line-up, la formation en 83-84, c'est évidemment Didier Vents Passe Chapdelaine au chant et au texte, François Quiveron remplacé en 85 par Marc Polis à la gratte, Alain Vents Passe Marietti à la contrebasse jusqu'en 87, Francis Vents Passe, premier batteur des Vents Passe, vide remplacé en 85 aussi par Nico Vents Passe Shower. Les Vents Passe, ils sont de la banlieue parisienne, formés en 83 donc, jamais séparés, mais formation mouvante, sachant que la contrebasse Alain a été remplacée par une basse, une guitare basse, comme on dit dans le jargon, avec Ben Sam de 87 en 91. Chris Black, aussi à la basse, de 91 à 93. Et enfin, dernier bassiste connu à ce jour des Vents Passe, c'est Jean-Michel Vents Passe Lejoux, à savoir ex-Monsieur Miel des Satellites, et qui a rejoint les Vents Passe de 93 jusqu'à aujourd'hui. On peut noter aussi dans le line-up, dans la formation, l'arrivée de Philippe Almosnino suite au décès de Marc Polis en 91, et enfin l'ajout d'une deuxième guitare avec Joseph Dahan de 97 à 2004, puis Tony Truant de 2004 à aujourd'hui. Alors les Vents Passe se forment donc en l'an de grâce 1983, comme quoi l'émission est vachement bien foutue puisque elle est intitulée Il y a 30 piges 84. Donc en 83, autour de Didier Vents Passe, Didier Chapdelaine, de son vrai nom, âgé de 21 ans quand il crée les Vents Passe avec des potes, Quiveron à la gratte, Francis à la caisse et aussi Alain Marietti, qu'on retrouvera par la suite dans Los Carrios et surtout dans les Happy Drivers, à la contrebasse slapée comme tout bon groupe de psychobilly qui se respecte. Parce que les Vents Passe, avant de faire dans le yéyé punk qu'on leur connaît aujourd'hui et comme ils disent eux-mêmes, sont effectivement un groupe très fortement typé psychobilly, sorte de revival punkifié du rockabilly de la fin des années 70, avec des groupes comme les Stray Cats par exemple, évidemment entre autres, mais les Stray Cats c'est quand même très marquant. Lui-même, ce revival, du rockabilly d'origine des années 50. Bref, à leur début, les Vents Passe sont la banane à donf et sautent déjà partout, et surtout Didier, qui ne se gêne pas non plus pour beugler à la limite de la limite de la justesse, comme vous en êtes certainement rendu compte à l'écoute de ce morceau. Mais d'où vient donc ce nom étrange autant que terrifiant? Le terme Vents Passe est directement inspiré du nom d'une tribu dans... Je vous laisse deviner, je vous laisse marner un peu, dans Raon. Raon, vous savez, le fils des âges farouche, une BD de Roger Le Curieux au scénario et d'André Chéré au dessin, apparu pour la première fois dans le numéro 1 du journal communiste pour les enfants, Pif Gadget, le 3 mars 1969, si vous voulez vraiment tout savoir. La tribu des hommes... Vents Passe, donc, habillés de capes rappelant les ailes des chauves-souris. Des hommes Vents Passe aux hommes vampires, il n'y a donc qu'un pas, que les Vents Passe, le groupe, franchissent allègrement en agrémentant leurs influences psychobilly de petits clins d'œil légèrement gothiques et BDesques, comme ça, tout comme le font d'ailleurs exactement à la même époque, mais dans un excès ironique très communicatif et très démonstratif, les Washington Dead Cats, le groupe ennemi juré des Vents Passe pour de sombres histoires de gonzesses ou de locales de répète où les deux, on ne sait plus très bien à l'heure qu'il est. À l'instar des Ramones Et pour leur rendre un bien bel hommage, les Vampas accolent leur nom de groupe à leur propre prénom, comme s'ils faisaient partie d'une même famille, bien qu'ils n'aient bien sûr aucun lien de parenté entre eux, comme le précise si finement Wikipédia, pardon, on ne s'en serait pas douté. Merci Wikipédia. Comme le font d'ailleurs aussi quelques autres groupes, en l'occurrence comme les Berus par exemple, ou même les Non-Tropos, dans un délire encore plus poussé d'ailleurs. Que tous les membres du groupe portent le même patronyme, c'est vrai que ça claque et que ça sonne, que ça fait classe tout en créant une cohésion dans la tribu, même si tout le monde ne s'y met pas forcément, comme Mark Polis, en l'occurrence. Mark Polis, qui va débouler en mai 85, dans les Vampas, en remplacement de Kivoron, et qui va grandement marquer le groupe de son empreinte et de son jeu à la gratte, plus influencé du surf rock que du rockab décadent. C'est également en 85 que Nico rejoindra les Vampas et adoptera par la même occasion le patronyme commun, Nico Vampas, en remplaçant Philippe. Oh là là, qu'est-ce que je dis, c'est marqué Francis et je dis Philippe, c'est n'importe quoi. En remplaçant donc Francis à la batterie, place qu'il ne quittera plus jamais puisqu'il occupe le siège de derrière les fûts encore aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, avant même la sortie début 85 de leur premier 45 tours éponyme et du premier album Tutti Frutti en 86, les Vampas répètent avec acharnement dans une cave, expliquant peut-être un peu leur côté vampire tapis dans l'ombre et la moiteur. Moiteur due aux litres de sueur qu'ils versent à tous leurs concerts, les premiers ayant lieu dans les bars et les petites salles, ou alors carrément à la fête de l'Huma comme on vient de l'entendre. Donc bars et petites salles où tous les groupes alternatifs commencent à se croiser régulièrement et à partager la scène, même si les Vampas paraissent franchement décalés dans leur délire et leur fausse naïveté par rapport aux groupes les plus politisés et les plus radicaux de l'époque, qui malheureusement se foutront bien de leur gueule, ce dont les Vampas ont d'ailleurs bien souffert et gardent même pas mal de rancœur et d'amertume. Bref, voilà pour les Vampas. Nous allons maintenant enchaîner avec le deuxième groupe. Ça fait combien de temps d'émission là, dans l'oreillette, dis-moi? 13 C'est-à-dire exactement deux fois moins de temps que la semaine dernière avant qu'on se passe le deuxième morceau. Eh ben, deuxième morceau, je vais vous le présenter tout de suite puisqu'on parlait des Wash, des WDC, des Washington Dead Cats. Eh ben, ça s'enchaîne très très bien avec les Vampas, je trouve, même si ils sont encore très très fâchés peut-être aujourd'hui, mais dans l'émission censurée et entre nous les amis, on s'en fout. Allez, hop là, un petit coup de Washington Dead Cats dans la face. Et le morceau s'appelle Vegetable Spirit, tout un programme.
The stars rose well in my dreams again. Should have heard the clues and I jump off the ramp. Off of my dreams, shot many colors. Got me everything, I'm a beauty of flowers. Come on, come on, come on, come on, come on and tell me. Come on and tell, tell, tell me, fly in my dream. Well, I wanna fly, just fly like a bird or fly. But I'm not far, hide me, cause I feel the move. I'm a good man, witch, flying on a broom. Took my leg into a green land. Oh, come on, come on, come on, come on, come on, come on and tell me. Come on and tell, tell, tell me, we'll fly in my dream.
C'était donc Vegetable Spirit de Washington Dead Cats. Alors ça, ce truc là, si je regarde bien mes petites pattes de mouche, faut que je rapproche ma feuille, parce que dites donc, c'est vraiment écrit tout petit. Alors Vegetable Spirit, donc, c'est le premier morceau de la toute première cassette 8 titres et éponyme des Washington Dead Cats, qui est sorti en 85, comme quoi on est vraiment bien pouf dans des pile poil dans le truc 84, en 85 chez Chainsaw International, et la version qu'on vient de s'écouter, elle est ici issue, c'est pas facile à dire, ici issue de la phase B du premier 45 tours, éponyme aussi, qui est sorti en 86 chez Bondage Productions. Alors comme j'ai ni l'un, hein, la première cassette, ni l'une, ni l'autre, le premier 45 tours, ce truc-là, je l'ai trouvé donc évidemment sur CD, dans un CD qui s'appelle Golden Age, il y a un jeu de mots, Golden Age, qui est sorti en 91, réédition, c'est une sorte... C'est sorti donc en 91 chez Oulala Bondage, et distribué chez Danstaria, et qui compile en fait les 45 tours, plus les inédits qui viennent des compiles, etc. Donc bref, des purs, un recueil de purs trésors Washington Dead Catsien. Voilà, alors... On va rentrer maintenant un petit peu dans le détail des Washington Dead Cats. Alors, sachant qu'on va commencer évidemment par la formation en 84. Alors, Mathias dit Matt Firehair, la chevelure en feu, la chevelure de feu. Matt qui est donc au chant. À la gratte, on retrouve François. La basse, c'est Lior. La batterie, c'est Mathieu Carrasco. Au saxo, c'est Dao. Qui sera rejoint un petit peu plus tard au saxo aussi par Masto Beru. Et la section cuivre est changeante par la suite. Les Washington Dead Cats, ils sont de Paris, formés en 84, comme quoi c'est complètement pas... je vais le dire dans l'autre sens. C'est pas complètement n'importe quoi dans cette émission. Plus ou moins sous cette formation de 84 à 89. Et puis à la gratte, on retrouve à partir de 89 Eric Kerridge. Et à la basse, Groovy I, jusqu'à la séparation des Washington en 92. Ils vont se reformer à partir de 99, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, avec toujours Matt Firehair, toujours au chant, Dao dit Dawenstein, toujours à la basse, qui sera remplacé par El Guanaco depuis le dernier album qui est sorti en 2013. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, enfin Fred Beltran, dit Lord Fester, à la gratte, aux pochettes, au design, puisque Beltran est aussi un grand dessinateur de BD, j'insiste sur les trois grands. Et à la batterie, le dernier batteur des Wash connu jusqu'à aujourd'hui, c'est Saewi Dio, c'est pas facile à dire, et puis pareil, la section cuivre qui bouge en permanence. Voilà, alors à l'instar de la semaine dernière ainsi que des deux premiers épisodes, on va retourner dans ce qui m'a servi beaucoup de sources, toutes les interviews que je vous ai lues et que je vais vous lire encore un petit peu sont tirées de la même source, énorme source. Il y en a pas beaucoup des bouquins qui sont partis qui concerne le mouvement alternatif. Il y en a un que je vous recommande vraiment très très fortement, qui s'appelle donc Niark Niark. Hein, je suis pas un salaud. Moi, je cite mes sources à chaque fois, même si c'est un peu redondant, si ce n'est chiant. Donc Niark Niark, fragment des scènes punk et rock alternatif en France 76-89 d'Arnaud Rootboy aux éditions Zone et Folklore de la Zone Mondiale, sorti en novembre 2007, que vous pouvez trouver par exemple sur la destroy.com, allez chercher ça, je vais pas vous mâcher tout le boulot non plus. Alors, allons-y. Interview donc de Matt Firehair qui date du 30 octobre 2006 et donc faite par les soins d'Arnaud Rootboy. Alors, j'ouvre les guillemets, là ça commence. En fait, quand on avait 17 ans, on était super fan des Stray Cats et des Dead Kennedys et on cherchait un nom pour le groupe. Un jour, je vois une petite copine dans un café, et puis tu sais, quand t'attends, tu notes, tu dessines des conneries. Elle avait écrit Washington DC, elle avait dessiné une tête de chat et une croix à l'envers qui était le signe des voyous dans les films de Gene Vincent. Je regarde le truc, et puis je vois la tête de chat. Tiens, chat, Cat. Puis, je vois la croix. Dead Washington, Dead Cats. Putain, c'est mortel! Ça faisait rockabilly, punk, les Dead Kennedys et les Stray Cats. Et ça faisait super flambe. Washington Dead Cats, ça a commencé fin 84. On écoutait du rockabilly, du swing, du garage 60s et du punk. Et c'est vrai qu'à 17 ans, c'est plus fun d'être punk que d'avoir une banane, ce qui était pour nous déjà un truc de vieux. Notre filiation, nos influences étaient très rockabilly et 60s. Et ce qu'on recherchait dans le punk, c'était l'énergie positive qu'on y trouvait. La musique qu'on écoutait, ça restait en gros du rockabilly et du punk. Donc on a monté un groupe de punkabilly. on a commencé chez Jimmy, qui était le bar rock où traînait toute la faune rock'n'roll. C'était des bars tout pourris, avec une sono toute pourrie. On s'est dégagé de cette scène assez rapidement, vu qu'on a rejoint une scène beaucoup plus punk, parce qu'idéologiquement, ça nous convenait. Même au niveau graphisme, c'était un truc où il n'y avait pas de limite, ça nous correspondait. Donc, ça nous attirait plus que d'aller vers des trucs en costard-cravate devant des mecs qui n'écoutaient que du rock 50. Nous, on l'a fait parce que c'était le contre-pied de la scène New Wave, gothique. J'aimais bien les Virgin Prunes. Je trouvais ça très théâtralisé. Mais c'était quand même le trip, c'est sinistre, tout ça. Les mecs sur scène bougeaient comme s'ils étaient trisomiques. Ils arrivaient avec des têtes de veau. Ils balançaient des bouts de viande. La musique était sombre. Nous, on avait juste envie de s'éclater. On faisait une musique de danse. Et on s'est dit, vu que les mecs arrivent sur scène avec des têtes de veau, nous, on va balancer des légumes. C'était aussi simple que ça. Quelque part, c'était très dadaïste et très en opposition. Pour nous, aucun code ne devait fonctionner de manière rigoureuse. C'était une époque où les codes étaient faits pour être transgressés. Quand on a fait la pochette du premier album Go Vegetables Go, les responsables de Bondage nous ont dit « ça marchera pas, les gens ils vont pas pouvoir identifier la musique ». Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on pose en perfecto devant un mur de briques? On s'en fout. Les gens qui nous suivent sauront pourquoi on fait ça et c'est en accord avec nos chansons qu'on jette des poireaux sur scène. C'est un concept, c'est pour ça. On a toujours été plus Clash que Pistols. Car ce qui nous motivait, au-delà de la musique, c'était la prise de position politique. Après, notre culture 50s a fait que je me sentais pas d'écrire des textes politisés, c'était pas ma sensibilité. On préférait parler de pizza, de pin-up, de voiture. Mais c'est vrai qu'on habitait en France, qui avait la montée du Front National, et qu'on venait malgré tout du punk rock, et que le punk rock, c'est politisé. Sinon, c'est pas du punk rock, c'est du pub rock. On était bizarrement à l'époque le seul groupe influencé rock 50s ou 60s avec un look, une énergie punk, ce qui était déjà un crime de lèse-majesté pour certains. Et en plus, on avait ce truc de faire tous les concerts de soutien antifasciste. Par essence, le rock'n'roll doit être rebelle. Elvis, il était rebelle en 56 parce qu'il se déhanchait sur scène et qu'il avait une connotation sexuelle qui n'était pas du tout tolérée, qui chantait comme un noir. Notre position, elle était simple. Quand tu t'habilles en 85, comme Elvis, en 56, et que tu fais la même chose, que t'as le même look, t'es pas rebelle, t'es juste un mec qui fait du bal, qui reproduit un truc qui a déjà existé. Si tu fais vraiment du rock, il faut être en accord, en harmonie avec ce qui se passe à ton époque. Le rock, ça doit être rebelle. Et le problème, c'était plus de chanter comme en 56 et de se trémousser. Le problème, c'était le Front National. À partir de là, notre positionnement, il était très clair. Notre groupe a toujours été fondamentalement antifasciste, antiraciste. On a toujours pensé qu'on faisait du rock'n'roll. Il se trouve qu'on a commencé au début du Psychobilly, qui a éclos en 81-82. On se considérait au départ comme un groupe de punkabilly. Gorabilly aussi d'ailleurs. Ceci dit en passant, petite note entre guillemets. Finalement, c'est plus la même chose. Donc on s'est retrouvé assimilé à la scène psycho, qui à l'époque, nous posait pas de problème. Il y avait plein de groupes qu'on adorait et avec qui on était potes. Les Batmobiles, les Guanabats, les Stingrays, les Milkshakes. Tous ces groupes-là étaient de gauche, à part un ou deux comme Dementid Argo. Du coup, on faisait pas de festival avec eux. On demandait pas à ce que le groupe ne joue pas. On disait juste, les mecs là ont fait le backing band derrière le chanteur de Screwdriver. Ça nous intéresse pas de fréquenter des mecs qui jouent avec des néo-nazis. Le mouvement psychobilly européen considérait que c'était une musique apolitique, qu'il fallait tolérer les skins. Nous, dans nos contrats qui étaient traduits en anglais, on tolérait pas que les gens qui arboraient des insignes fascistes ou à caractère raciste puissent rentrer au concert. On demandait qu'ils soient refusés. On a quand même fait finalement un festival psychobilly en 88 en tête d'affiche sur deux soirs en Flandre où il était précisé à l'entrée « Les Washington Dead Cats nous interdisent de laisser rentrer tous les gens avec des insignes nazis ». Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, des skins sont rentrés sans couleur, comme on dit, et je me suis pris une bouteille de gin en pleine tête. J'ai fini à l'hôpital avec 18 points de suture. Mais à ce moment-là, notre action a été de remonter sur scène, la gueule en sang, et de dire « Je vous emmerde tous, ce que je pense, je l'assume, et c'est pas une bouteille qui m'arrêtera. » Ça, c'est un truc qui est complètement incompréhensible pour moi. On faisait une musique qui venait du rockabilly, du blues, vachement influencée par la musique noire. C'est comme les mecs qui font du blues et qui sont racistes. C'est irrationnel pour moi. C'est de la science-fiction. On s'est retrouvé positionné au niveau européen comme le seul groupe psychobilly antifasciste. En Allemagne, on était le seul groupe psychobilly qui jouait dans les squats parce que les autres groupes attiraient toute cette engeance nazie. Du coup, il y a des gens qui nous détestaient fondamentalement parce qu'ils nous disaient que la musique devait être apolitique. Nous, on faisait pas de texte politique, mais on n'était pas apolitique. Bandage a signé les Berus, et dans la foulée, Nuclear Device, qui n'était pas très loin des Brigades, en termes musical. Je dis bien, ça aussi, note de l'Edave, entre guillemets, je dis bien les Brigades, parce qu'il faut pas les confondre avec les Brigades. The Brigades et les Brigades, c'est pas la même chose. Souvenez-vous, les premiers épisodes de cette série. Qu'est-ce qu'il dit, Matt? Hop là, on retourne avec Matt. Derrière les Berus et Nuclear Device, il y a eu les Ludwig et les Wash. Pendant 3-4 ans, on a été les 4 groupes du label, 4 groupes qui tournions ensemble et qui, je pense, ont fait ce qui est devenu le rock alternatif. Marsu gérait l'idéologie globale du label, même celle des Berus. C'était un peu le commissaire politique, surtout pour les Berus. Il avait vachement de discours et de réflexions par rapport à ce que devait être le rock. On était tous d'accord à l'époque, tout le monde allait dans le même sens. On était des groupes militants, on défendait les mêmes valeurs. Faire des disques pas chers, des concerts pas chers, des concerts de soutien, refuser les radios commerciales et la SACEM parce que c'est un monopole. On voulait pas non plus aller sur des multinationales parce qu'on voulait pas qu'on nous dise ce qu'on avait à faire. Ces groupes-là disaient ensemble, on fait une musique différente, d'une façon différente. C'était pas la même musique, mais on se retrouvait sur le fond. On voulait pas être des rockstars, on voulait faire de la musique et avoir une liberté totale en termes de créativité artistique. Je pense qu'on aurait été moins politisés si on n'avait pas été sur Bandage. Quand on a rencontré Bandage, on était le premier groupe implicitement antifasciste dans un créneau où les gens ne l'étaient pas du tout. Ça a créé des connexions, ça nous a mis en rapport avec des associations qui étaient fondamentalement engagées, ça a fait boule de neige. Bandage, c'était pas non plus Boucherie Productions. Boucherie est arrivée au moins 1 ou 2 ans après, ils avaient un état d'esprit nettement moins politisé que Bandage. Chez Bandage, il y avait des réunions avec tous les groupes, les managers, c'était assez collégial. Tu remarqueras qu'à l'époque, tous les concerts pour le Scalp, Reflex, etc., c'était que des groupes Bandage, souvent avec les Thénardier ou Dirty District. On avait la même vision de ce que devait être la musique, de ce qu'elle devait être pour les gens, pour le public. On a tous pris conscience de ça, et notre gros problème à l'époque, notre bête noire, c'était le Front National. Fin de citation, fin d'interview. Ha! Attendez, je vais boire un petit coup de flotte. J'espère que vous n'avez pas autant les oreilles qui chauffent que mes cordes vocales. Alors voilà, hop, j'espère que c'était drôlement intéressant ce que nous racontait ce bon vieux Matt. Alors eh ben on va maintenant les Washington Dead Cats, c'est fini pour aujourd'hui. On va enchaîner avec un autre groupe. On va écouter d'ailleurs le tout premier morceau enregistré des Rats. Alors les Rats, magnifique référence pour moi, ça me tient beaucoup à cœur toujours aujourd'hui, 25 ans après. Les Rats, je suis très très heureux qu'on s'en mette un petit peu, qu'on s'en partage un petit peu ensemble. Alors là, on est en plein dedans, on est en 84, premier enregistrement des Rats qui se trouve sur une compile qui s'appelait Rock in Paris 84. Vous allez voir, les Rats, pour leur premier morceau, ils ont fait très très fort. Le morceau s'appelle À l'échafaud. Je vous laisse écouter la suite.
Ça faisait un sacré bail, Drougui.
Oh, Drougui. Mais
comment va?
C'est impossible. J'en crois pas, messieurs.
Ça me dit quelque chose.
Chérie, tu verras que c'est vrai. On a l'âge de travailler, Drougui.
C'est...
Alors on s'est mis au travail.
Je sais ce que
dans
c'est.
Dans la police.
C'est Orange Mécanique. Si vous l'aviez pas deviné, je vous le dis. La basse arrive et la guitare va pas tarder.
J'en ai rien à foutre de vos lois, de vos uniformes, de vos drapeaux. Je vous voudrais bien savoir pourquoi ces conneries-là font de notre pouvoir. Les rues sont grandes mais pas assez. Y'a trop de kébis au mètre carré. Tous les keufs sont des salauds. Tous les keufs à l'échafaud. Ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé les bras levés. On peut plus traîner dans les rues sans décliner notre identité. Contrôle papier toute la journée, on veut plus se laisser emmerder. Tous les keufs sont des salauds, tous les keufs à l'échafaud.
Et la marée chaussée, un morceau qu'on se... Ah voilà, un morceau qu'on se réécoutera certainement dans une spéciale J'aime la police. Ça me paraît fortement logique. Donc, à l'échafaud, des rats issus de la compilation Rockin' Paris 84, sorti donc en 84 chez Banzai. Sachant, comme je vous le disais, c'est de... tout premier morceau de la toute première cassette, je me trompe de ligne, je l'ai déjà lu ça, c'était pour les Wash. Donc le premier morceau d'Era a figuré sur une compile, avant même Bébé je t'adore, morceau qu'on retrouve sur la compilation Les héros du peuple sont immortels, qui est sorti en 85 chez Gougnaf Mouvement. Gougnaf Mouvement, c'est une coprod Gougnaf plus Kronstadt Tapes. Essayez de le dire, vous allez voir, c'est pas évident. 85, c'est bien avant Tequila, qui sera le premier album d'Era sorti chez Gougnaf en 87. Voilà, donc, alors, l'Era, hop, je change de feuille. Vous n'avez rien vu, hop, vous êtes rendu compte de rien, l'Era. Alors, le line-up d'origine, on va commencer par la même chose. Alors, on retrouve les deux frangins. J'ai pas retrouvé leur nom de famille. Il me semble que j'avais trouvé ça sur une vieille pochette de disque quelque part. Impossible de remettre la main sur le nom de famille de deux frangins. Patrice, d'un côté au chant et à la gratte, et Joss, de l'autre côté, à la gratte. Laurent à la basse, Jean-Mi à la batterie. Les rats, ils sont de Montreux-Fonyonne, en Seine-et-Marne. Ils sont formés depuis 82. Puis Patrice uniquement au chant à l'arrivée de Rollo qui prendra la deuxième gratte en 87, Moa à la basse en 88 et qui restera Moa dans les rats de 88 à 92, qui sera remplacé par Roland Chamallow, confère la semaine dernière dans le chapitre Parabellum. Roland Chamallow de 92 à 94, et le dernier bassiste des rats sera Fred jusqu'en 96, année de la séparation définitive. Donc voilà, interview toujours tirée et recomposée un petit peu issu donc de Nyark Nyark, interview de Patrice qui date du 28 novembre 2006. L'interview, hein, qui date pas Patrice. Donc j'ouvre les guillemets, c'est parti. Les rats se sont formés courant 82 à Montreux, dans une cour de lycée. Le nom, c'est à cause d'un dessin que je faisais sur les murs du lycée. On voulait un nom court, facile à retenir et subversif. Celui-ci, dans la graphie, rappelait le groupe anglais The Ruts. Par la suite, il s'est avéré que ce nom nous correspondait vraiment, car on avait un appétit de rat et on parasitait les scènes où on n'était pas programmé. En banlieue, en 82... c'était carrément le désert. Les scènes dites alternatives, qui en fait étaient bien souvent des MJC désertés par les babacools et reprises en main par les enfants de 77, sont multipliées vers 85, notamment grâce aux radios libres et aux nombreux fanzines punk qui ont fait beaucoup pour la propagation du virus. Les fanzines ont été des organes essentiels à l'essor du mouvement alternatif, et parfois bien plus. C'est aussi vers cette période que des groupes comme les Beru, LSD et Panique ont commencé à avoir une bonne notoriété et à rameuter plusieurs centaines de personnes à leurs concerts. Ils ont été des locomotives pour d'autres groupes émergents. Nous, on jouait du punk rock bien rock ou du rock punk bien punk et on n'avait pas d'autre but que de nous éclater le week-end et le mercredi après-midi. Par la suite, quand les rats se sont fait connaître, on a profité des sonos qui étaient mis à notre disposition pour gueuler bien fort nos convictions, nos espoirs, nos doutes et notre haine. Très peu d'amour dans tout ça, c'est vrai. Les références en ce qui nous concerne, presque tous les groupes punk anglais 77, Sex Pistols, Ruts, Damned, Buzzcocks, Clash, etc. et américains, Ramones, Dead Kennedys, Heartbreakers, mais aussi des trucs plus vieux comme les Rolling Stones, les Stooges, AC/DC, Dictators et bien sûr les groupes de rock français comme Téléphone, Starshooter et puis par la suite Parabellum, OTH, Les Beru, Hot Pants et La Souris Déglinguée. On chantait en français, nous, parce qu'on avait des choses à dire et qu'on voulait être compris du public. Et puis, le rock en France commençait à se décomplexer et c'était une façon de s'affirmer par rapport aux anglo-saxons. Les premières tournées, eh ben, elles furent bordéliques à souhait. On tournait avec les moyens du bord, dans une 2 chevaux et une 306 break. Véridique. Le tout avec une énergie incroyable. Étant un groupe de rock francophone, on avait beaucoup joué en France et dans les pays européens francophones, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne. Quant au public, il était assez éclectique. J'entends par là que c'était pas un public majoritairement punk. Et vraiment, le public, il était chaud, chaud bouillant. Je me rappelle notamment d'un concert à Dijon où pendant la coupure de courant, Jean-Mi avait tenu le tempo avec la batterie et le public a chanté le morceau en cours pendant au moins 20 minutes. Hallucinant. Quand j'y repense, je me demande comment on pouvait encore faire la fête après les concerts jusqu'au petit matin avec les mecs qui organisaient et repartir le lendemain pour une autre date. Le punk, c'est du rock. Et le rock, c'est parfois de la soupe. Si tu me demandes la définition du rock, je te dirais, c'est une musique populaire et juvénile qui doit rester sincère et spontanée. La cerise sur le gâteau étant lorsqu'elle réussit à être subversive. La scène alternative, elle se limite pas qu'au rock. C'est plutôt une façon de faire les choses. Faire de la musique, organiser des concerts, éditer un fanzine ou créer une station de radio par passion. Parce que ça te plaît, et non dans un esprit purement mercantile de rentabilité. Je dis purement, car sans faire de la rentabilité, si tu veux que ton activité dure et s'adresse à un maximum de gens, il est clair que le côté financier doit être géré et contrôlé, mais ça doit pas être au détriment de l'expression. Je crois que la scène alternative française a eu des difficultés à assumer ce côté financier de la chose. Les rats, c'était pas un groupe commercial, et on faisait aucune concession artistique. Maintenant, si on ramène plusieurs centaines de personnes à nos concerts, on faisait aucun complexe à croquer notre part du gâteau et ça ne nous empêchait pas de jouer gratuitement pour des causes qui nous semblaient justes. Nous, on est issus de la banlieue, des cités où la population est diverse dans ses origines et métissée. Nos camarades de classe étaient arabes, antillais ou asiatiques. Notre bassiste était marocain. La montée du FN est à mes yeux une honte et l'exemple le plus flagrant de la bêtise et de la méchanceté des gens. Les rats avaient sorti un single spécial dédicace entre les deux tours des présidentielles de 88 qui s'intitulait « L'œil qui te manque ». Le texte de la chanson, de Géant Vert d'ailleurs, résume assez bien ce que nous inspire ce parti dont les dirigeants étaient pas seulement des fascistes, mais aussi de véritables nazis. Un soir, à Emerinville, courant 85, après qu'on ait squatté le concert d'un groupe skin, l'infanterie sauvage, et bousillé leur matos, ça a plu aux gars de Gougnaf, plus que notre musique à l'époque, je gage. Ils vont rapidement nous faire enregistrer notre premier single, Violence, avec une pochette de Matt Conture. Le son était ultra pourri, car on l'avait enregistré dans une cave avec un magnéto 16 pistes, un quart de pouce. Il a toutes les erreurs d'un premier enregistrement. Mais la composition était d'enfer et ce disque a une espèce de fraîcheur juvénile. C'est notre première vraie galette et bien que le son fût pourri, l'accueil du public et des fanzines a été bon et la super pochette de Matt et le fait que c'était une production Gougnaf y ont contribué, je pense. Et juste avant, on était déjà apparu sur la compilation Rock in Paris 84. Voilà, en ce qui concerne les rats. Fin de citation, en ce qui concerne les rats, la boucle est bouclée donc, les amis. Et nous allons maintenant enchaîner avec le 4e morceau. On va peut-être battre le record de la semaine dernière dans le nombre de, de morceaux, je veux dire. On va passer de les rats à les Tugs, les amis. Tugs aussi, grande référence dans le rock alterno français, et les Tugs qui démarrent aussi en 84 et dont on va s'écouter un de leurs tout premiers morceaux. Si vous voulez tout savoir, le morceau qu'on va s'écouter, que je vous propose, s'appelle Night Dance. Il est issu de la face A du premier 45 tours des Tugs, sachant que la face B s'appelle Femme Fatale. Ce premier 45 tours des Tugs, il s'appelle Frenetic Dancing et il a été enregistré en novembre 89 à Juvisy-sur-Orge et produit par Gougnaf Mouvement. Le tout sorti en 85. On verra ça tout à l'heure. Musique. Je commence à m'y perdre. Bon, j'espère que vous suivez, les copains et les copines. Voilà, Night Dance, morceau signé Les Tugs. Donc, je me suis un petit peu relu, c'est un petit peu confus, même dans les infos qui sont derrière la pochette du disque. Alors, Night Dance, donc, face A du tout premier 45 tours des Tugs, qui s'appelle Frenetic Dancing, qui a été enregistré fin 84, donc effectivement, le morceau qu'on s'écoute date de 84. Par contre, Frenetic Dancing, lui, évidemment, il est sorti en 85 chez Closer Records, me semble-t-il. Et ensuite, on retrouve ce morceau, parce qu'évidemment, le 45 tours est difficilement trouvable. Bon, évidemment, on peut le télécharger sur Internet, faut savoir où quand même. Mais moi, je l'ai retrouvé sur la réédition du premier album des Tugs, qui est sorti en 85 ou 86, je ne sais plus précisément, qui s'appelle Radical Hystery, et qui a été d'ailleurs réédité aussi récemment par Crash Disc, avec une pétée de bonus dedans, tout ça. Donc, eh ben les amanches, les Tugs. Ah bah si, j'allais. on va quand même se faire un petit tour d'interview avec les Tugs. Alors avant l'interview, pareil, on reprend sur la formation d'origine, à savoir les deux frères Souris, Eric qui a la gratte et au chant, et Christophe à la batterie. La deuxième gratte, c'est Thierry Méanard, et à la basse, Gérald Chabot. Les Tugs, ils sont d'Angers, formation en 83, jusqu'à 88, puis de 88 à 99 avec un autre bassiste, Pierre-Yves Souris, à savoir le troisième frère de la bande. Reformation 99, c'est séparation presque totale et définitive des Tugs, qui se reformeront de manière très express en 2008 pour les 20 ans du label Sub Pop, à savoir le label de Nirvana à Seattle, qui a produit les Tugs sur pas mal de leurs albums. Cette reformation express en 2008, elle sera suivie du No Reform Tour en 2009. Et depuis, les Tugs sont séparés définitivement. Voilà. Alors, petite interview d'Eric Souris, donc guitare et chant, interview qui date du 22 novembre 2006. Alors, le groupe s'est formé en 83, des cendres de différents groupes angevins, tels que Dazzy Bao, Stress. C'était à la base une bande de copains, deux frangins d'abord, Christophe et moi. Christophe à la batterie, moi à guitare chant et deux copains, Gérald et Thierry. En 77, on avait tous 17 ans, sauf Christophe qui en avait 16. On était tous à la base des fans de musique. On achetait de la musique tout le temps, du disque. En fait, on écoutait déjà du rock. Un peu comme tout le monde. On n'était pas branchés sur les New York Dolls, parce qu'on connaissait pas encore, mais sur les Stooges, des trucs qui faisaient du bruit, un peu 60s. J'étais branché également sur du planant allemand. Bref, on écoutait beaucoup de choses très très différentes. Donc, on écoutait du rock, on achetait du disque, et il y avait un truc qui arrivait et qui correspondait à l'état d'esprit qu'on avait, c'était le DIY, le do-it-yourself. On est monté sur scène, c'est un peu la légende, on est monté sur scène car on savait pas jouer. Pour nous, un groupe, c'est un moyen d'expression. Comme au lycée, lorsqu'on faisait des journaux, qu'on appelait des journaux de contre-information. Au début, c'était une expression comme un journal de contre-info, comme la radio. On cherchait à foutre le bordel. C'est pour ça que le punk nous correspondait bien musicalement. Parce que c'est une explosion sonore. Foutre le souk un peu partout avec les différents moyens qu'on pouvait prendre, ça correspondait aussi totalement à notre état d'esprit, le côté un peu anard que pouvait véhiculer le mouvement punk. Donc, 77, c'est le déclic. On commence à acheter une batterie, une guitare. Notre premier groupe s'appelait IVG. On chantait en français, mais on n'a jamais fait de concert. On a tous appris à jouer en même temps. Un peu le classique du groupe punk, quoi. On se retrouve dans un local. Personne n'avait de notion musicale. J'avais fait 6 mois de conservatoire, mais j'avais 6 ans. Je connaissais même pas le solfège. Donc, on a appris tous ensemble. On a commencé à faire quelques groupes de punk rock, dont IVG, et après on se cherchait sur des trucs un peu plus new wave. En 83, suite à différents changements de nom, les Tugs arrivent avec la volonté de faire notre truc du punk rock. Nos références au tout début, c'est les Nomads, les Dogs, les Pistols, la scène anglaise 77, les Heartbreakers, New York Dolls, les Stooges. En même temps, ça y ressemble pas vraiment. On est au tout début du hardcore, on va être à la croisée des chemins et on va se situer entre Buzzcocks pour le côté très simple et mélodique et Husker Du pour le côté mur du son, les guitares à fond. En plus, on chantait en anglais. À cette époque, en 83, on peut dire que la France était divisée entre le punk qui chantait en français, essentiellement les Parisiens, et le punk rock qui chantait en anglais, la scène de province. Nous, on était entre les deux. Le public était un peu déconcerté, décontenancé par ce qu'on faisait, sauf quand on a eu notre propre public. On répondait pas aux clichés du mouvement. On n'avait pas de pause, pas le côté festif. Du début à la fin du concert, j'allais dire trois mots, les morceaux allaient s'enchaîner. Et nous, on nous l'a beaucoup reproché. La puissance, c'est ce qu'on voulait. Comme à l'époque, quand on entendait un 747 au décollage, un maelstrom sonore, alors qu'on n'était pas parmi les groupes les plus bruitistes. C'était plus tous ensemble, les deux guitares qui faisaient souvent la même chose, le bloc monolithique qui avance, avec le côté pop qu'amenaient les mélodies de voix ou les gimmicks de guitare. Ça correspondait vraiment à ce qu'on était, l'envie de foutre le bordel. J'ai souvent comparé un concert à une manif. T'as la même dose, d'adrénaline, t'as envie que ça fasse bouger le monde. Cette volonté de se battre, de s'amuser ensemble, ce qu'on pouvait faire avec les Tugs, ce qu'on voulait faire avec les Tugs, c'était ça. Dans toute notre carrière, on a dû faire une dizaine de reprises. On savait pas jouer, donc on était incapable de faire des reprises. Et puis, on voulait faire nos propres morceaux. On s'est fait un répertoire assez rapidement. Et ensuite, il y a eu des rencontres. Notamment par l'intermédiaire d'une copine qui faisait un fanzine et qui était en contact avec des gens de Juvisy-sur-Orge qui allaient créer Gougnaf. Elle leur a filé une cassette, une démo enregistrée en studio. Ils ont trouvé ça super et finalement, on a fait le premier 45 tours avec eux. Super rencontre. Il faut aussi bien saisir qu'à cette époque-là, entre Paris et les provinces, il y avait un monde. Soit Juvisy, c'est la banlieue, mais nous retrouver là-bas, c'était un choc culturel. On tombait en banlieue parisienne avec le mouvement punk. Et on tombait chez des fous furieux, parce que Gougnaf, c'était des fous furieux. À cette époque, les Gougnaf, c'était vraiment le gros bordel. On a estimé qu'ils n'étaient pas capables de le sortir, ce disque. Ils n'avaient pas de stratégie... Ils n'avaient pas de thunes. On se demandait comment ils allaient payer les pressages. En gros, on les sentait trop à l'arrache, ce qui a été une erreur stratégique grave, parce qu'après, quand ils ont sorti Parabellum, Les Rats, Les Shérifs, c'était le même bordel. Donc c'était faisable. On est resté super potes avec eux. Christian, qui était dans Gougnaf, était notre manager. Christophe produisait certains de leurs disques. J'ai bossé avec eux quand ils sont venus sur Angers. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu rester chez Gougnaf plutôt que d'aller chez Closer. On s'est bien entendu avec eux, mais Gougnaf était plus dans notre état d'esprit. Radical Hystérie sort fin 84, début 85. On l'a enregistré dans un studio qui n'était pas rock'n'roll, qui était plutôt un studio qui bossait dans la bande-son de film. Du coup, on nous a un peu laissé faire et le résultat au niveau du son n'était pas extraordinaire. On était un groupe très politisé. On n'a jamais été comme les Bérus, proche des milieux d'extrême-gauche. On n'a pas fait beaucoup de concerts de soutien, mais on avait des choses à dire et quasiment toutes nos paroles étaient d'inspiration politique, sociale. On a toujours parlé de ça, qu'on n'avait pas envie de travailler, de participer à une société capitaliste néolibérale. En même temps, on se méfiait énormément des slogans. On était dans une lutte des classes, mais on pensait que c'était trop facile de ne dire que ça. Tous les problèmes ont leur complexité et on pouvait pas les résumer en une phrase. Un slogan, la jeunesse emmerde le Front National, soit, mais c'est pas aussi simple que ça. On s'est toujours un peu méfié des foules, des gens qui lèvent le poing et qui en même temps, d'ici 3 ou 4 ans, finiront par être des cadres dynamiques dans une entreprise. On a toujours eu ce côté un peu désabusé. Mais on était complètement dedans. Une manif, c'est bien, on y va parce qu'on se dit que la révolution est peut-être au bout. Et en même temps, on n'y croit pas une seule seconde. Ce qui ne nous empêche pas d'essayer et d'y revenir à la fois d'après et toujours. On voulait pas être des porte-drapeaux. On s'est impliqué dans les trucs militants, mais au niveau musical, on n'était pas évident. Il fallait aller chercher la substantifique moelle. Je me souviens d'un titre du Monde Diplomatique, Informé, Fatigue. Et nous, c'était un peu ça. C'est aussi pour ça qu'on nous a proposé peu de concerts de soutien. À cette époque, on s'amusait beaucoup. Il y avait des labels de tarés, notamment Gougnaf, notamment Bondage. Il y avait un fourmillement plein d'assos qui organisaient des concerts. Plus tard, on a joué dans des grandes salles et on voyait pas forcément les organisateurs. Dans les années 80, il y avait une agitation, une envie de foutre le bordel et de s'amuser. Plus les labels, les fanzines. C'était un état d'esprit qui était totalement différent. Branlant, pas au point, pas pro, mais quand même 10 000 fois mieux que tout ce qu'on a pu voir après. Fin d'interview, les amis d'Eric. Voilà, donc alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Redis-moi dans l'oreillette. 4 minutes, sans déconner. Oh non! Bon, on coupera le générique du début. Eh ben, j'avais encore deux groupes à vous passer avec des grandes, grandes interviews et je savais pertinemment, de toute façon, que nous n'aurions pas le temps de nous écouter ces deux groupes. En l'occurrence, Nuclear Device, dont on parlait tout à l'heure, et les Thénardier aussi. Je vous réserverai ça, les amis, pour la prochaine salve. Certainement, il y a 30 piges, 85, on verra ça, soit en fin 95, soit fin 2015, soit début 2016. Je voulais absolument, avant qu'on se quitte, vous passer deux morceaux qui sont vraiment très très symboliques de l'année 84. Tout d'abord, un morceau des collabos. Alors les collabos en vitesse... C'est leur unique album qui est sorti à 5000 exemplaires. Les Collabos, c'est un obscur groupe quepon breton de Brest plus précisément, qui a sévi de 82 à 85 et dont la fusion avec les Non-Tropos aboutira au VRP 5 ans plus tard. Du moins, Rascal, le chanteur des Collabos, rejoindra les VRP pour la formation d'origine. Voilà. Et pour vous prouver que je ne dis pas que des conneries, eh ben on va s'écouter un morceau qui est commun aux Collabos et au VRP. Ce morceau s'appelle « Ta sœur ».
Nous avions rendez-vous à la bus, toi et moi tous les sans ma copain, sans tes copines, tous les en amour. Ta sœur mongolienne, ta sœur schizophrène, ta sœur a tout gâché, j'ai failli me noyer. Petit bassin là-bas, je croyais ton absence. J'aurais mis la tête dans mon maillot de bain si j'avais su que tu travailles avec Clarence. Ta sœur est bimentale, ta sœur est hémocéphale, ta sœur m'a transporté, la raison m'a quitté. Nous avions rendez-vous à la piscine, toi et moi tous les deux. Sans ma copain, sans tes copines, tous les deux en amour. Ta sœur, mon gueulienne, ta sœur schizophrène, ta sœur a tout gâché, j'ai failli me noyer. Ta sœur a tout gâché, mon cerveau s'est noyé. Ta sœur a tout gâché, mon cerveau s'est noyé. Ta sœur hydrocéphale, ta sœur débile mentale, ta sœur va dans ce côté, j'ai failli me noyer. Sans mes copains, sans tes copines, tous les deux en amour. Ta sœur est du mental, ta sœur est recéphale, ta sœur m'a transporté, que la sœur m'a quitté.
Les collabos avec ta sœur, donc un morceau des collabos qui ont été repris ensuite par les VRP sur le deuxième album des VRP qui s'appelle Retire les nains de tes poches, si ma mémoire est bonne. Donc le seul album des collabos qui s'appelle Collabo, qui est sorti en 84 chez KO Productions, et le distributeur, je ne l'ai pas trouvé, s'il y en avait un. Et on va se quitter, les amis, pour ce soir, avec un album magnifique qui est sorti en 84, ça tombe bien. On va pas se quitter sans s'écouter un extrait de ce premier album d'OTH. L'album s'appelle Réussite. Après une première cassette qui s'appelait Classé X et qui était autoproduite à 200 exemplaires et qui est sortie en 82, et un tout premier 45 tours sur lequel on trouvait deux morceaux dont Musique Atteinte, qui avait été sorti chez RCA, déjà de la grosse production, à 1200 exemplaires, qui était sorti en 82 aussi. Après une première cassette live autoproduite qui s'appelait Live in the Church, sortie en 83 à 200 exemplaires, et ben réussi. C'est le tout premier album d'OTH qui est sorti donc en 84 chez Art Graphique et qui a été réédité en double album avec Sur des charbons ardents chez Last Call et WMD. Voilà, et on va se quitter les amis avec OTH qui nous chante un seul problème. Le seul problème, c'est le pouvoir, et on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce qu'il faut que j'enregistre aussi un petit peu de musique, moi, de mon côté. Alors, vous comprenez. Voilà, ceci justifie cela. Et je vous laisse avec OTH, les bisous. Les amis, j'espère que vous avez passé 2 heures agréables et où vous avez appris plein de trucs.
Les parasites se parasitent entre eux. Les autres font comme ils peuvent. Mais qui leur font pousser des fleurs d'orchidées dans la tête des drogués. On ne sait plus où donner de la tête avec tous nos problèmes. On voudrait changer d'air, chanter une autre rengaine. Mais il n'y a qu'un seul problème, c'est le pouvoir. Le tout c'est de le savoir. Contraire du poil. Alors offrez donc un dieu vos fleurs d'orchidées en hommage.